Bonjour Stanislas.
Bonjour Arnaud.
On va parler dans cette session de nouveautés en matière de stockage de Windows Server 2012 R2 et plus particulièrement de ce qu'on appelle les storage space et d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le storage tiering qui est implémentée avec la dernière version. Alors, quelle est la vision Microsoft du stockage? Globalement, on inclut maintenant pas mal de fonctionnalités dans les serveurs de fichiers pour faire qu'on soit tout à fait capable de construire à partir de Windows une solution de stockage de bout en bout qui permet de faire un stockage simple à gérer, économique, et tout ça basé sur du software, sur les outils qu'on connaît pour gérer nos environnements, donc sur serveur 2012 R2 et sur System Center 2012 R2 également. Alors si on voudrait dépeindre un petit peu l'image du sol au plafond avec les solutions de stockage Microsoft, à quoi ça correspond? Ce qu'on se dit, c'est que on va utiliser du stockage de type bloc, du disque auquel on va accéder. Ce disque, il peut être attaché localement. Ça peut être du GBOD, typiquement, donc une bonne caisse de disque qu'on va accéder par une interface, et puis sur lequel Windows va faire l'ensemble des opérations d'intelligence. Donc dans ces opérations-là, on aura le stockage de type bloc, et puis au-dessus de ça, on va gérer de manière logique l'agrégation de nos disques en storage space. Ces storage space ou storage pool, on va leur configurer, leur attribuer plus ou moins de redondance, d'intégrité des données, selon la quantité de disques qu'on a et puis les groupements logiques qu'on veut effectuer sur ces disques. Donc en fait, storage space et storage pool, ça va être une notion de virtualisation du stockage et c'est Windows qui va être en charge de faire les opérations classiques de gestion des groupes de disques. On va prendre un exemple où on va monter par exemple un cluster de fichiers. Ce cluster de fichiers, il va utiliser ce qu'on appelle le scale-out file server, donc un cluster de fichiers en nœud actif-actif. Et puis ça va nous permettre de en fait servir de couche basique pour exposer un stockage hautement disponible à nos hyperviseurs, à nos machines virtuelles qui sont exécutées à distance. Vous l'avez compris, notre idée c'est d'offrir une solution de stockage qui soit pas chère, qui soit bâti sur des technologies robustes et économiques à la fois, sur de l'Ethernet typiquement. Donc là, tu vas avoir par exemple l'utilisation du protocole SMB 3.02.
Le dernier
qu'on a implémenté avec 2012 R2 et qui en fait va nous permettre d'accéder, d'exposer ce stockage avec les protocoles classiques, donc de l'Ethernet, comme on l'a dit, pas cher, sur du 10 giga, hautement redondant avec du SMB 3.0 et puis le scale-out file server.
Donc si je résume bien, si on était dans une approche complète Microsoft, on serait effectivement avec des serveurs physiques sur lesquels sont attachés en SaaS des BJBOD, donc avec de l'attachement mutuel pour pouvoir faire du cluster justement. Mm-hmm. Les différents disques dans ces BJBOD peuvent être de deux types, disque magnétique, rotatif, donc grosse capacité, pas forcément très cher, et à l'inverse, on peut également mettre du SSD, mm-hmm. très performant, mais pas avec grosse capacité et assez cher. Et on va créer en fait au niveau de Windows, avec cette couche de virtualisation de stockage, des storage space sur lequel on va créer en fait des disques durs virtuels et des volumes.
Exactement.
Et ensuite, effectivement, si on a un cluster de fichiers, on va pouvoir servir par exemple des partages de fichiers qui seront utilisés par des hyperviseurs. L'idée,
absolument,
effectivement, c'est que quand tu parles de pas cher, ça veut dire que c'est moins cher qu'utiliser une solution, on va dire, propriétaire de type SAN. Mm-hmm. Avec des technologies comme du fibre channel par exemple, qui quand on commence à démultiplier le nombre de nœuds dans le cluster, commence à devenir relativement cher, relativement complexe en termes d'infrastructure de stockage à monter.
Assez clairement. Alors, avec 2012, on avait déjà introduit les briques fondamentales de ces évolutions de la plateforme de stockage. On a notamment inclus la cible SCSI dès l'operating system, pas besoin d'ajouter de composants additionnels. Les storage space, on en a discuté, la virtualisation du stockage. SMB 3.0 avec toutes ces améliorations en matière de stockage. La gestion de plusieurs cartes réseau qui peuvent être actives à un instant T pour agréger la capacité des bandes passantes et pour faire du failover. Et puis SMB direct. C'est aussi la déduplication des données. C'est également le Resilient File System qui permet de gérer des très grosses quantités de données, bien plus grosses que les limites qu'a NTFS. Et puis c'est aussi l'implémentation de l'operating system de technologies comme ODX. ODX c'est l'offline data transfer et ça va nous permettre d'optimiser en fait un petit peu les transferts de gros volumes entre un serveur de fichiers et SAB. Par exemple, L'idée, c'est de se dire, déplacer un fichier, tu veux déplacer un fichier d'un disque d'une LAN sur une baie vers une autre LAN. Le scénario classique jusqu'à présent, c'est que tu vas prendre le fichier, tu vas le copier sur Windows en local, c'est ce qui va se passer, hein, et puis en fait tu vas gérer une bufferisation et tu vas renvoyer le contenu sur l'autre LAN qui t'est exposé.
Donc en gros, ta donnée part de la baie, elle passe par le serveur via le réseau et elle repart vers la baie, ce qui est du point de vue purement performance au réseau est assez stupide. La baie, finalement, elle pourrait copier d'elle-même vers elle-même.
Exactement. Et en fait, c'est un protocole qui permet de faire ça, ODX, qui va permettre de dire, sous forme de jeton à la baie, fais-moi cette opération-là. Inutile de transférer toute la donnée sur le câble. Tu prends juste le temps local, tu le mets sur autre tel point local. Et ça commence à être assez largement supporté sur le monde du hardware à l'heure actuelle.
Précisons effectivement que dans ce cas-là, les baies doivent être compatibles ODX. Donc les fabricants classiques tels que NetApp, EMC, HP ou Dell commencent à implémenter effectivement et mettre nativement dans leur dernier OS de type SAN, enfin pour leur SAN, ce type de fonctionnalité. À noter que tu as parlé ici d'un échange d'une LAN à une autre LAN sur une même baie, mais avec des baies compatibles ODX qui se comprennent entre elles également, on peut également déplacer par exemple un VHD d'une LAN, d'une baie numéro 1 vers une LAN sur une baie numéro 2. Et là encore, sans passer par un transfert réseau, passant par l'hyperviseur ou la machine Windows.
Ah ouais, c'est toute la beauté d'ODX.
Toute la beauté d'ODX, effectivement, le serveur va envoyer un double jeton et la première baie va aller copier sur la deuxième sans passer par l'intermédiaire qui serait le serveur Windows au milieu.
Clairement. Serveur 2012, c'était aussi l'inclusion de tous ces outils au sein du serveur manager pour gérer ce stockage avec mon outillage classique.
Habituel. Alors, la cible ISSI, tu l'as dit, depuis Windows Server 2012, elle a intégré nativement dans le système d'exploitation. Donc, une cible ISSI, ça vous permet quoi? Ça vous permet de transformer un serveur Windows en SAN accessible via le protocole ISSI, c'est-à-dire en gros de l'SSI sur de l'Ethernet, du réseau IP. Donc, on supporte la mise en cluster pour cette cible ISSI, c'est le minimum si on veut assurer la tolérance de panne. On supporte le MPIO également, donc c'est du multipass IO, c'est-à-dire être capable de passer par plusieurs chemins réseau pour accéder au final à la cible, donc avoir une redondance sur les liens et des mécanismes de tolérance de panne. On peut également faire du boot sur SSI, on peut booter jusqu'à 256 machines sur une cible ISSI Windows Server 2012. Et à noter, c'est que les LUN, donc les unités logiques sur lesquelles après on crée ces volumes de cette BSAN, sont visibles en fait sous la forme de fichiers VHD. Et donc du coup, tu vois mécaniquement la limitation qu'on a en termes de taille de LUN sur Windows Server 2012, c'est donc 2 Tera. Bien entendu, on est complètement interopérable avec les initiateurs ISSI dans Microsoft. Les nouveautés dans R2, eh bien, on supporte désormais nativement le format VHDX pour définir les LUN, c'est-à-dire qu'on passe de 2 Tera en format VHD à 64 Tera par LUN l'ISSI sur Windows Server 2012 R2. On est capable de redimensionner à chaud également ces VHDX, et ça devient ce VHDX le format par défaut. A noter, c'est que la cible est également administrable nativement en SMIS, qui est donc un standard du marché du stockage, et donc on peut piloter les LUN et le stockage SAN de Windows, soit à travers le System Center Virtual Machine Manager 2012 R2, soit à travers d'autres solutions qui, elles, sont compatibles également avec le standard qui est SMIS.
Donc, plus besoin de rajouter des extensions dans Server 2012, comme c'était le cas dans 2012, il fallait rajouter des extensions. Dans R2, c'est inclus maintenant.
C'est natif. Les storage space, tu en as parlé tout à l'heure. Juste à rappeler, c'est effectivement l'objectif est de créer des groupes de disques par rapport à tous les disques qui sont stockés dans du physique, typiquement une BJBOD. Et de faire des groupes en disant je vais prendre les 10 disques magnétiques, les disques SSD, et puis je crée un groupe et je vais travailler sur ce volume global. Et c'est ensuite sur ce volume global que je vais créer des disques durs virtuels, et c'est au niveau des disques durs virtuels qu'on définira en fait les redondances, typiquement les niveaux de RAID, etc. Donc, basiquement, ça veut dire que toute la partie intelligence est vraiment ramenée aux gestions de la baie, aux gestions des médias, entre guillemets, et ramenée au niveau du système d'exploitation et de toutes ces fonctionnalités-là. Alors, on n'a pas réinventé des choses par rapport à ce que font les autres acteurs bien connus du monde des baies de stockage. Ils ont des années d'expérience sur le sujet. C'est juste qu'en termes de commodité, maintenant, on implémente les fonctionnalités qu'on estime minimales à avoir pour ce type d'environnement dans Windows.
On démocratise tout ça, en fait.
Exactement, banalisation du stockage. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré dans les storage space sur Windows Server 2012 R2? Le premier, c'est le storage tiering. L'idée, en fait, est de combiner l'usage de SSD, donc par définition très performant, cher et assez faible en termes de volume, et des disques magnétiques qui, eux, sont moins performants, valent moins cher, mais par contre offrent plus d'espace. Et cette paraît finalement à la problématique dite, qu'on dit souvent, du syndrome de l'écureuil, des utilisateurs en fait qui stockent plein d'informations. Et puis ces informations, des fois, elles ne sont pas accédées pendant des mois, voire des années. Mm-hmm. Et c'est assez classique, on a nos clients qui nous parlent de leur serveur de fichiers qui contiennent des centaines de milliers de fichiers. Et ils sont en limite de saturation des disques. Et quand ils demandent à leur utilisateur, mais tu pourrais faire un petit peu de ménage, l'utilisateur dit toujours, non, mais ça j'en ai besoin, ça peut me servir, même si on peut vérifier par A plus B qu'en fait le fichier n'a pas été ouvert depuis des années. Donc on est un petit peu, Darwin le disait bien dans la théorie de l'évolution, l'homme utilisera tout l'espace dont il dispose. Et en fait, c'est vrai également du stockage. Hein. C'est donner 2 terrains à l'utilisateur, il les remplira.
Donc là, ce qu'on veut, c'est pas payer du SSD, en gros, pour stocker les PowerPoint de Office 95.
Par exemple. C'est un très bon exemple. On a vu qu'on avait des technologies comme la data duplication qui sont intéressantes là-dessus. Mais au-delà de ça, si on veut donner des très bonnes performances d'accès à des fichiers sur des filers à des utilisateurs, le mieux, c'est du SSD. On va pas acheter des terras de SSD. Un petit peu. Donc, le tiering, basiquement, c'est une intelligence dans le système qui va être capable de dire, ça c'est une donnée qui est accessible, qui est utilisée fréquemment. Mm-hmm. Donc c'est une donnée chaude, on va la mettre sur le SSD qui est très performant. Et inversement, ce fichier, cette présentation Office 95 qui n'a jamais été ouverte depuis 95, eh bien on va le mettre sur du média qui est pas cher, qui est lent. Voilà. Et en gros, c'est le système qui va reventiler les données au bon endroit.
Alors le write-back cache avec CSV, qu'est-ce que ça peut bien être que cette bête-là?
Sans doute, donc c'est du cache en écriture. Mmh. Et le CSV, c'est ce fameux volume qui est accédé par plusieurs nœuds d'un cluster, souvent un cluster, soit un cluster fichier actif, donc Scaled File Server, soit un cluster Hyper-V.
Alors qu'est-ce qu'on a fait sur ce write back cache?
En fait, le write back cache, c'est une fonctionnalité qui n'était pas activée par défaut dans Windows Server 2012, qui permet donc d'activer un cache en écriture, donc de gagner en performance. On utilise de la RAM du serveur pour faire le cache. Ouais. Et donc cette valeur n'est pas activée de base dans un environnement 2012. On s'est aperçu l'usage qu'en l'activant et en le configurant, alors un maximum en 2012, c'est 20% de la RAM utilisée pour le cache, on obtenait vraiment des très très bonnes performances et on améliorait réellement les scénarios de type VDI par exemple. Du coup, on s'est dit, si on a prouvé par A plus B que ça marchait bien, qu'il n'y avait pas de risque derrière, pourquoi ne pas l'activer par défaut? Donc il est activé par défaut ce cache à partir du moment où on a des CSV en filer ou en Hyper-V sur du 2012 R2. Donc la valeur, donc le write-back cache est activé par défaut. Et on peut aller monter jusqu'à utiliser 80% de la RAM du serveur en fait, pour faire ce cache. Là encore, c'est paramétrable. Mmh. Dernier point, la parité avec le CSV, c'est la capacité de faire des lectures des RAID 5 ou autres, donc des systèmes d'agrégats avec contrôle par parité, donc sur un ensemble de disques en fait, au sein d'un virtuel disque.
Sur des volumes de cluster donc.
Sur un volume de cluster, chose qu'on ne pouvait pas faire dans les versions préalables. Donc on était entre guillemets limité soit au modèle simple, c'est-à-dire une sorte de RAID 0, on met tous les disques, on en perd un, et c'est la misère parce qu'on a tout perdu. Mm-hmm. Ou alors on pouvait faire également du miroir, donc miroir simple, type RAID 1, ou du miroir à plusieurs colonnes, comme du RAID 6. Et d'ailleurs, c'est le RAID 6 qu'on encourageait, aussi pour des raisons de performance, parce que c'était bien meilleur que le RAID 5 fourni dans la parité de 2012.
Parfait, donc on complète un peu ce panel de fonctionnalités.
Écoute, je te propose une petite démonstration du tiering.
Eh bien, avec plaisir.
C'est parti.
Alors, on est dans le Server Manager.
Alors, le Server Manager, c'est là où tout va se passer. Alors, le gestionnaire de disques existe toujours, mais quand on va vouloir travailler sur les storage space, ça se passera forcément soit en ligne de commande PowerShell, qui est plus compliqué, mais techniquement faisable, soit dans l'interface du Server Manager. Donc, dans le Server Manager, on va aller dans la partie service de stockage et de fichiers. Ici, donc, tu vois l'ensemble des volumes qui sont disponibles. On va venir ici dans la partie storage pool. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un storage pool ou un storage space est un groupe en fait de disques durs, ni plus ni moins. Disque dur au sens physique. Le fait d'agréger tous ces disques dans un groupe va donner un volume global dans le groupe. Et c'est sur ce volume global qu'on va créer des disques durs virtuels, soit de taille fixe, soit de taille, ce qu'on appelle du fine provisioning, de taille extensible. Ici, j'ai 2 pools. Donc le premier ici contient 3 disques durs de 2 Tera, de type SATA. Et sur celui-ci, j'ai donc 2 disques durs magnétiques rotatifs de type SATA, 500 Go chacun, et un SSD. Donc là, on a une petite configuration, vraiment pour l'illustration de l'exemple, de manière très simple. Donc, si on additionne 500 plus 500 plus 240, ramener le tout avec des vraies valeurs giga, les bonnes divisions, on a donc un espace, une capacité totale sur ce storage space ou storage pool de 551 giga. Ensuite, moi, en tant qu'administrateur, je vais venir créer dessus des disques durs virtuels, soit de taille fixe, soit de taille dynamique. Donc on va venir en créer un, par exemple, ici. D'abord, on me demande dans quel storage pool je veux venir créer ce disque dur virtuel. Voilà. Je vais prendre celui où il y a de l'espace, c'est-à-dire celui-ci, le numéro 2. On va l'appeler VHD tiers MVA. Je vais venir cocher la case ici, créer un storage tiers sur ce virtuel disque.
D'accord.
Donc ça veut dire que je vais consommer à la fois du SSD et du disque dur magnétique. Donc périphérique cher, petit et performant, avec du périphérique pas cher, un peu plus gros et moins performant.
Le disque dur de grand-papa.
Celui qu'on trouve quand même encore classiquement. Donc là, en fonction du nombre de disques que j'aurais sélectionné dans mon, et que j'aurais de disponible dans mon storage pool, j'aurai trois options. Le mode de disposition simple, en gros du RAID 0, aucune sécurité.
J'accumule les disques, aucune sécurité.
Les disques, hein, aucune sécurité. Le mode miroir, qui est le second mode, donc à partir de deux disques pareils, je vais pouvoir faire du coup le duplicat sur deux disques, là on est l'équivalent du RAID 1. Si on commence à faire du double colonne, dans ce cas-là, on pourra avoir, si on a cinq disques, on pourra perdre deux disques. Et en fait, on a un double miroir qui est fait. Voilà, donc ce qu'on appelle du RAID 6, basiquement. Et puis, si j'avais un peu plus de disques dans mon storage pool ici, j'aurais le mode de parité, qui me permettrait effectivement de faire l'équivalent de RAID 5 ou autre. On va prendre le mode le plus simple. Ici, c'est pour la démonstration. Donc, quand je crée un disque dur virtuel, j'ai l'option entre prendre une taille fixe. Donc, si je prends 500 Go, ça enlèvera 500 Go de disponible à mon storage pool. Je peux également le faire de manière dynamique, c'est-à-dire le disque va grossir au besoin, ce qui est assez avantageux parce que tu le comprends tout de suite. Tu rajoutes des disques durs dans ton storage space. L'espace global de ton storage space s'agrandit et du coup ton virtual disque peut également s'agrandir.
Il faut quand même monitorer la consommation d'espace disque. Hein, bien pour entendu, rajouter des disques en temps et en heure, sinon pour avoir des surprises agréables.
Bien entendu. Alors, quand on est dans le cadre d'un storage tiers, donc avec du SSD et de l'HDD, là on n'a pas le choix, c'est forcément une taille fixe. D'accord ? Parce qu'effectivement on va définir combien on va mettre de SSD, combien on va mettre de HDD. Là, on ne grossit pas. Et bien, c'est ici que ça se passe. Donc là, il est en train de me dire, actuellement, sur ton storage pool, qui fait 546 gigas, donc il reste de libre 546 gigas, il te reste 120 gigas de SSD, j'avais déjà créé un disque dur avant, il te reste 426 gigas de disque dur. Après, il suffit juste de choisir combien on veut mettre de SSD, combien on veut mettre de disque dur. C'est tout. Donc là, par exemple, je peux dire, je vais mettre 60 gigas de SSD, et ici, je vais prendre 120 gigas de disque magnétique.
Donc là tu as dans l'idée que tu pourrais en recréer d'autres plus tard, recréer un autre storage pool plus tard.
Exactement. Donc là, ça va me donner une taille de 180 gigas.
Bien 180 gigas.
Oui. Là, j'ai un petit résumé qui me dit, attention, est-ce que c'est correct? Vous allez prendre du tiers, il y aura 60 gigas de SSD, 120 gigas de HDD, et je crée mon disque dur virtuel. À partir de là, une fois que le disque aura été créé, c'est-à-dire tout de suite, il me propose de créer un volume sur le disque. Donc à noter, quand on est sur du storage tiers, on va créer un disque dur virtuel qui va apparaître dans le système. On va pouvoir créer par-dessus une partition et une seule. C'est une contrainte du tiering, il faut juste la savoir. Donc quand je vais créer ici mon volume, et bien là, classiquement, je vais dire, je vais prendre ce disque dur-là qui n'a pas encore été formaté, donc 180 gigas. Là, on me dit le volume doit avoir la même taille que le disque dur virtuel parce que c'est du tiering. Je lui donne une lettre, mettons, l'appeler R par exemple.
Donc là, il te crée le volume pour toi, il te demande le format de fichier, tu n'as même plus besoin de retourner dans le disque manager.
Tout à fait classique, là, je l'appelle effectivement tiers 180 giga par exemple. Ici, je peux choisir effectivement le format NTFS ou REFS, tout à fait classique. La data des duplications, elle est directement injectée désormais dans les assistants de volume.
Ah, il te le propose direct.
Exactement. Donc là, je peux dire, j'en veux pas, ou là, ce sera un serveur de fichiers, donc du coup, je vais prendre cette option-là. Si j'étais sur un VDI, je prendrais celle-ci. Là, je peux choisir de dire, quand tu vas lancer ton assistant de duplication, tu vas prendre des fichiers qui ont plus de 3 jours, etc.
Voilà.
On peut également planifier l'opération de vérification de la data de duplication et de réoptimisation des disques. Sur base régulière, en général, c'est fait toutes les 24 heures. On peut faire une deuxième passe également.
Ah, c'est un beau travail de l'intégration justement de toutes ces couches
Exactement.
De virtualisation dont on parlait tout à l'heure.
Je me suis ensuite de créer sur Create. Et donc là, il est en train simplement de me formater mon disque. Et donc, je vais avoir 180 gigas de storage tiering, donc prêt à être utilisé. Les données qui sont fréquemment utilisées sont déplacées automatiquement par le système sur la partie SSD. Les choses qui vont s'accumuler dans le temps iront sur la partie en fait disque dur magnétique.
Parfait. Eh ben, on a créé cet espace. Il ne reste plus que livrer à nos utilisateurs pour qu'ils puissent le remplir de toutes ces belles présentations PowerPoint alors.
Voilà, exactement. Et quand tu vois ici dans les disques, quand je disais on a créé tout à l'heure un disque dur virtuel, au niveau des disques durs vus dans Windows, eh bien, on les voit apparaître ici. Donc là, on a le disque de 180 gigas de type subsystem storage space. Donc là, on voit ici sur cette machine-là, j'ai des disques SATA, des disques USB et j'ai des disques storage space qui ont été créés en fait par le storage space. Et au petit passage, pour terminer ce petit point-là, quand vous allez dans le device manager, donc le gestionnaire de périphérique, et vous allez dans les storage controllers, vous apercevrez alors ici, cette machine fait également Sibly SCSI. Donc on voit ici un contrôleur virtuel SCSI et on voit effectivement que le storage space est vu comme un contrôleur au sens contrôleur RAID ou contrôleur disque directement présent dans l'interface. Donc c'est assez bas dans les couches, ce qui signifie qu'on ne mixe pas du RAID matériel avec du storage space. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'investir dans des cartes SAS qui intègrent des fonctions de cache ou de RAID, etc. Parce que de toute façon, on ne s'en servira pas dans le storage space. Donc carte SAS basique 6 Go. Le maximum d'entrée, et puis le reste de l'intelligence, il est fait par le système. D'où banalisation, coût moins cher, etc.
Eh bien, merci Stanislas pour ces nouveautés et puis pour ces petits conseils.
Eh bien, écoute, merci, à bientôt.
À bientôt.